Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans le Café des Sports de Radio Foot International avec un Café des Sports originel aujourd'hui. Il est reformé ce Café des Sports parce que, Chérif Guémo, vous nous rendez visite un vendredi. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous êtes content de retrouver le duo Rémi Ngono et Xavier Barré.
Je sens les tensions monter là.
Bonjour messieurs.
Bonjour Annie, on a bien besoin d'un shérif aujourd'hui parce qu'avec un Real Barça au programme, à mon avis, ça peut
va être
chaud.
Ça risque. Alejandro Valente, bien sûr, fera lui aussi l'arbitre, comme d'habitude, en étant un petit peu tendancieux, mais ça, c'est tout le monde le sait.
Non, jamais, jamais.
Et puis, un nouveau venu dans le Café des Sports, Clément Brossard, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Un de nos stagiaires, surtout futur confrère, futur journaliste. Alors, dans le Café des Sports du jour, eh bien, nous reviendrons sur ces deux clubs français en demi-finale européenne, Monaco et Lyon qualifiés cette semaine en Ligue des Champions pour l'un, en Ligue Europa pour l'autre. Et après tirage au sort, eh bien, nous assisterons à un Monaco-Juventus de Turin. Les jeunes monégasques face à l'équipe championne d'Italie. Des monégasques au pied d'une muraille. Sans doute le pire des tirages, alors que les madrilènes disputeront un nouveau derby, Real Atlético à Santiago Bernabéu pour commencer. Et puis Lyon. Lyon jouera à Amsterdam contre l'Ajax. C'est un shérif, ça vous dit quelque chose?
Ah ouais.
Alors que le Celta Vigo espagnol, eh bien, recevra Manchester United de Mourinho. Alors des matchs prometteurs, nous verrons qui est favori, qui aura une chance d'aller selon nous en finale à Cardiff ou à Stockholm. Un rendez-vous planétaire dimanche soir, le Classico, les Merengues en grande forme face au Blaugrana en petite forme. Ils joueront sans doute à Santiago Bernabéu le titre de la Liga 2017, malheur aux vaincus, surtout aux Barcelonais qui pourraient tout perdre de leur saison, ou presque d'ailleurs, sur ce match. Le Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts.
El clásico más clásico de todos los clásicos.
Me marcho de uno,
de dos y de tres.
Me marcho de cuatro,
de cinco y de seis.
Detened al argentino, a ver si podéis. Ya decidirá el destino de quién será la corona. Quién ganará este partido, Real Madrid o Barcelona.
En exclusiva, Real Madrid-Barcelona. Domingo 23 a las 9 menos cuarto de la noche en Movistar Partidazo.
Je vous conseille d'aller voir ces petits moments délicieux de pub pour le Classico parce que on voit les joueurs se faire face à face habillés comme des banquiers, hein, Alejandro.
Eh oui, c'est pas loin de la vérité, hein.
c'est assez drôle pour se mettre dans l'ambiance. En tout cas, ils se rencontrent pour la 215e fois de leur histoire. Et pourtant, eh bien, des millions de personnes à travers le monde attendent ce match, cette rencontre entre les deux plus grands clubs espagnols. Alors, une histoire faite de victoires, de buts, de stars, Didier régionaliste aussi, et du coup qui les oppose depuis des décennies. Alors c'est le vrai classico, hein, parce que ces derniers temps on a osé parler de classique ou de classiqueur. Là c'est le vrai classico qui clôturera la 33e journée de Liga, compétition où le suspense finalement autour du titre de champion demeure. Mais passera-t-il le week-end? La question est posée car face à face, eh bien, deux équipes pour qui le résultat de la rencontre changera tout, surtout si le Real gagne, est-ce qu'il sera déjà champion? S'il perd, est-ce que le Barça dira adieu à la triple couronne? Rémi?
Si le Barça perd, au revoir. Si le Real perd, le Real a encore beaucoup de cartes à jouer. Mais pour que le Real perde, ce sera aussi une vraie désillusion, ce qui n'est d'ailleurs pas possible parce que lorsque je me rends quand même compte que la dernière mésaventure du Real à domicile, c'était le 25 novembre 2015, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans, et c'était à l'époque de Benitez.
Et
voilà, donc en ce temps, Zinedine Zidane est venu et le Real n'a pas eu à trébucher contre le Barça et de surcroît, le Real a souvent eu à maîtriser terriblement le match. Donc, je me dis, ce n'est pas possible que le Real puisse déjà dire au revoir à la Liga, mais c'est le Barça qui est presque déjà pendu.
Donc le Real, en tout cas, il gagnerait sans doute son titre pour vous. Xavier.
Oui, clairement, c'est la finale du championnat. Il faut dire les choses très simplement. Si,
33e journée, il y en a 38.
Oui, mais si le Real gagne, ils auront 6 points d'avance sur Barcelone, donc plus un match en retard.
Un match en retard.
Donc ils seront irrattrapables, même s'ils font un faux pas contre Séville, par exemple, lors de l'avant-dernière journée, je crois, ou l'antépénultième. En revanche, le Barça doit gagner s'il veut garder un espoir de conserver ce titre.
Ça serait la troisième année consécutive.
Voilà, donc ça c'est la possession du Barça, le titre de champion, parce que maintenant, ça devient exceptionnel quand le Real Madrid de Raymond Depuis Gonneau
5
le
ans.
Gagne.
Depuis 5 ans,
donc, 2012.
Le Barça, s'il veut le conserver, par contre, doit absolument gagner à Madrid. Et derrière, comme il y a ce match en retard que le Real doit jouer contre le Celta à Vigo, là où Barcelone avait d'ailleurs perdu, ça sera pas gagné non plus pour Barcelone. Mais il y aura encore un espoir.
Shérif, fin de championnat à la 33e journée.
Bah non, justement, a priori, pour moi, il y a un net avantage pour le Real. Au niveau du jeu, au niveau de ce qu'on a pu voir ces dernières semaines. Le problème, c'est qu'on a vu que le Real a été en difficulté dans les matchs en retard. Ils ont été en difficulté contre l'Atlético. Ils se sont fait remonter. Donc, ce qui au départ s'annonce comme, pour moi, une victoire annoncée du Real, en fait, on n'en est pas sûr. Et c'est ce qu'on a connu dans les Classicos, c'est-à-dire un bon vieux match nul, 1-1, et qui ne fera pas bouger grandement les lignes. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Mmh. Je suis pas entièrement rassuré parce que ce que fait le Real, surtout qu'ils ont fait la prolongation là contre le Real, ils ont énormément donné. Donc voilà, ils ont peut-être aussi un jour de plus de fraîcheur.
Oui. Voilà. On va voir ça cas par cas, mais sur l'ensemble, Alejandro, suspense maintenu en Liga alors ou déjà joué?
Si Barcelone gagne, absolument, il y aura du suspense, ça ne fait aucun doute, d'autant que le Real, du fait de sa qualification en demi-finale des Ligues des Champions, aura un programme relativement plus chargé, donc ils auront probablement l'occasion de laisser quelques points en route. C'est en tout cas l'espoir sur lequel Barcelone essaye d'espérer repasser devant au finish dans ce championnat, sachant que Barcelone, de toute façon, a aussi la finale de la Coupe d'Espagne au programme.
Clément.
Et le capital confiance est clairement du côté du Real Madrid aujourd'hui après la victoire contre le FC le Bayern Munich. Et
la
qualification. Dans les têtes, ça fait du bien. Et en tout cas, il y a aucune défaite, mis à part la défaite contre le Celta Vigo en Coupe d'Espagne à Santiago Bernabéu. Le Real cette saison n'a encore jamais perdu.
En tout cas, en championnat. Alors, au niveau des stats, les résultats montrent un léger avantage pour les Merengues au fil de ces 214 rencontres. 87 victoires du côté du Real, 84 seulement du côté des Blaugrana.
Ça se tient quand même.
Et alors, vous parlez de 1-1. C'est vrai que le 3 décembre dernier, ces deux équipes se sont rencontrées. Ouais. Et du côté du Camp Nou, le Barça n'avait pas emporté. Ça s'était joué d'ailleurs dans les dernières secondes du match.
Avec l'entrée d'Iniesta qui avait quand même pas mal changé les choses.
Oui, et Sergio Ramos qui sauve le Real grâce à un but au dernier instant. Alors, le Real Madrid est-il avantagé par tout un contexte et notamment pour avoir eu un jour de repos de plus par rapport à la Ligue des Champions. Écoutons Zinedine Zidane qui croit finalement à l'effet positif de ce match contre le Bayern.
Nous avons joué 120 minutes, c'est beaucoup. Mais bon, nous aurons 5 jours pour récupérer. Et je crois qu'après la victoire, avec l'énergie que cela peut donner, nous sommes vraiment très heureux et nous allons récupérer vite, bien vite. Mais c'est sûr, l'effort a été énorme.
Effort énorme. Alors, est-ce que ce jour de repos, la dynamique aussi dans laquelle se trouve le Real, le fait de recevoir à domicile, tout ça peut les avantager?
C'est ce qu'on avait cru avant de jouer contre l'Atlético. Hein, ils ont mené rapidement, ils ont bien contrôlé, et puis ensuite après,
qu'est-ce qui les guette, la fatigue, la suffisance,
tout ça, puis la qualité du Barça qui maintenant est dos au mur et qui doit à tout prix sauver sa saison. On peut retrouver un gros Messi parce qu'on est encore dans la lutte Cristiano Ronaldo Messi pour le Ballon d'Or. Donc là, c'est terminé. C'est la dernière occasion pour Messi de faire pencher un peu la balance. Je suis un peu d'accord avec toi. Mais tu vois, donc s'il y a un triplé de Messi,
le vote pour le Ballon d'Or c'est au mois de novembre, donc on a.
Non mais tu sais comment fonctionne Messi et Cristiano Ronaldo.
Voyons les avantages. Les avantages d'abord côté Real.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une confiance. Est-ce que ça peut y avoir un excès de confiance? Moi, je dois avouer que le match contre le Bayern, c'est une victoire en faux semblant. parce qu'il gagne effectivement 4-1, mais il y a quand même deux buts qui sont hors jeu. Il y a quand même une prolongation qui se joue à 11 contre 10. Donc Zidane, il est gentil de nous dire que ça, ils ont fait des efforts considérables. On a bien vu qu'à la fin, ils ont été assez chevaleresques. Le Real, ils auraient pu alors mettre 4 ou 5 autres d'ailleurs. Ils ont fait tourner parce qu'ils avaient bien vu que le Bayern était à genoux, à d'avoir joué la demi-finale aller comme la demi-finale retour en infériorité numérique.
Oui, enfin, c'est donc, la 84e minute.
Oui, non, mais ils ont quand même, c'est pareil, ils ont joué toute une mi-temps à 10 au match aller. Donc, le Real Madrid est en confiance, mais grâce à des circonstances favorables, peut-être qu'elles le seront moins face à Barcelone.
Clément?
Bah là-dessus, oui, forcément, la confiance est du côté du Real. Après, revenir sur ce carton rouge, voilà, qui intervient dans les dernières minutes de jeu aussi, est-ce que ça joue vraiment dans la qualification du Real? Et ils ont surtout mis une intensité assez impressionnante, ce match entre le Real et le Bayern Munich.
Le Real à 10, à 11 contre 11, il perd 3-2 contre le Bayern de Munich, si on additionne les temps de jeu. Et effectivement, à 11 contre 10, il gagne 4-0.
Attends.
Les chiffres sont vrais. C'est les vrais chiffres, qu'est-ce que tu veux. À 11 contre 11, le Real est éliminé.
Comment ils se sont retrouvés à 10, le Bayern?
Comment ils se sont retrouvés? Et première des choses, je vais te dire, c'est bien beau de me raconter tout ce qu'on est en train de raconter là. Je devrais quand même te dire que Chelsea, de toutes les façons, ou encore Inter Milan, élimine Inter Milan, bat le Barça, qui était bel et bien en supériorité numérique. Eh bien, donc, enlevons d'abord
vous
ça.
Nous parlez de quelle époque, à peu près.
On parle de cette saison.
Maintenant,
hein.
Nous parlons de cette saison. Je vais vous dire que pendant cette saison, le Barça a été incapable de battre Malaga, alors que Malaga était à 9 contre 11. Donc, ce n'est pas une affaire de supériorité numérique, tout comme
mais bien sûr que si.
Mais attends, deuxième des choses, le Real a eu 30 tirs, ce n'est pas un problème d'arbitre, de surcroît, le Bayern a bénéficié de 2 pénaltys. Donc, si à l'aller, le Bayern a un faux pénalty qui devrait transformer, il ne le fait pas. Au match retour, ils ont un pénalty discutable qui transforme et toi tu ne le vois pas. Et par la suite, tu viens me raconter que c'est une victoire volée comme si on a refusé un but au Bayern. Le Bayern n'a pas été capable de marquer des buts et le Real a été capable. Maintenant, revenons à la dynamique. La dynamique, c'est quoi? C'est que depuis la saison dernière, le Real a quand même réussi à remonter presque 11 points sur le Barça. Ce qui signifie que c'est une équipe qui est en grande confiance depuis très très longtemps, qui ne perd pas contre les petites équipes comme le fait le Barça, qui ne prend pas des buts n'importe comment, qui est quand même sur une série de 55 matchs en marquant. Donc, à une certaine période, reconnaissons à ce rouleau compresseur du Real qu'il est actuellement la meilleure formation du monde, qu'il a le meilleur dispositif tactique, et qu'on le sache que sur les dernières confrontations, le Barça n'a pris qu'un seul point sur 6 sur le Real.
On va y venir, mais en tout cas la dynamique du Real, Alejandro, il y a peut-être ça aussi, c'est-à-dire c'est sans doute la mission de la saison, gagner le titre de champion d'Espagne pour Zidane et pour son groupe. Évidemment que s'ils peuvent gagner la Coupe d'Europe, une douzième...
Certainement, ça commence à dater, comme voilà. Le rappelait Xavier tout à l'heure. Après, on va pas passer l'émission à parler de l'arbitrage. C'est vrai que cette saison, en Espagne, on a estimé quand même le Real avait quand même obtenu pas mal de points grâce à des erreurs d'arbitrage.
C'était souvent le Barça avant, alors, oui. Bon, de toute façon.
Et il y a un élément supplémentaire.
Barça a eu 35 pénaltys. C'est-à-dire plus que Real, Atlético, Séville réunis. Donc, le côté arbitrage ne parle pas de ça.
Et il y a un élément supplémentaire qui est venu s'ajouter pour ces classicos, c'est la suspension très lourde prononcée à l'encontre de Neymar par la commission de discipline pour un geste qu'il avait fait au moment d'être expulsé.
Pour des injures.
Pour un geste qu'il avait fait. Donc c'est vrai que Barcelone essaye désespérément d'obtenir que Neymar puisse jouer ce match. Pour l'instant, c'est mal parti. Et voilà, donc il y a un ensemble d'éléments qui font que Barcelone va un petit peu avec une envie de revanche à Bernabéu.
Alejandro, on lui a posé la question sur le Real, vous avez remarqué qu'il a glissé sur le Barça.
Parler des forces et des faiblesses, oui. Je pense de toute façon que le Real, ils ont un meilleur banc. Le Barça n'a
pratiquement
pas
ça ne fait aucun doute.
Asensio, James, Isco... Et Vasquez, donc c'est quatre atouts qui peuvent faire entrer, ce n'est pas le cas du Barça.
Alors écoutons côté Barça, parce que côté Barça, on n'est pas très fanfaron, on fait profil bas sûrement à raison, parce que évidemment l'élimination sans marquer aucun but de la part de la fameuse MSN, même si elle n'a pas de haine durant le prochain match, eh bien cette MSN a pris un petit coup et Luis Enrique le reconnaît.
Se relever après une telle défaite, c'est difficile. Mais nous aurons le plus beau défi dont peut rêver un supporter et un joueur du Barça, à savoir aller sur le terrain de notre éternel adversaire. Et il n'y a pas plus bel endroit pour aller jouer quand on est au Barça que le stade Bernabéu. Ce sera difficile, évidemment. L'ambiance sera comme d'habitude, particulière. Mais pour nous, ce sera un merveilleux encouragement. Alors oui, il faudra remonter les joueurs, mais les motiver, ce sera très facile.
Alors, facile de les motiver, évidemment, toujours pour ce genre de match. L'absence de Neymar, vous y faisiez allusion, Alejandro. Pour l'instant, il a été suspendu, on le sait, à la suite d'un match contre Malaga, et suspendu pour trois rencontres. Déjà une a été faite. C'est beaucoup, parce que c'est la première fois qu'il prend un carton rouge depuis qu'il joue là-bas. Donc, on se demande aussi, on parlait de l'arbitrage tout à l'heure, tout est un peu bizarre. Mais en tout cas, ils ont fait appel. Pour l'instant, ça a été refusé. Mais, en fait, les Barcelonais...
Ils ont fait un recours devant un tribunal ordinaire. Alors, le tribunal en question a dit qu'ils n'allaient pas se réunir avant le week-end. Donc, a priori...
après le match, peut-être.
C'est mal parti.
Ouais, finalement,
mais les textes sont un peu confus. Parce que si Barcelone dépose quand même son recours, normalement, la peine serait suspendue jusqu'à la prochaine réunion du tribunal en question. Donc, il y a un peu une confusion. Les avocats vont sans doute mesurer les arguments des uns et des autres pour décider... si Neymar doit être aligné ou pas dimanche.
D'autant que la FIFA n'aime pas beaucoup quand on va voir la justice commune pour essayer d'avoir raison.
La FIFA, et c'était le grand leitmotiv avec Sepp Blatter, on règle nos affaires en famille, on lave notre linge sale en famille, on sait parfois ce que ça signifie, mais bon. Non, mais c'est certain que l'absence de Neymar, et c'est un sujet sur lequel on va d'ailleurs revenir dans le 11 d'Europe ce soir sur Canal Plus Afrique, parce que c'est vraiment un gros handicap pour le Barça, parce qu'il joue très bien actuellement. Il est très bon, Neymar. Alors effectivement, ils n'ont pas marqué contre la Juve, mais encore une fois, il a vraiment été excellent dans sa façon de venir soutenir le jeu, de libérer un peu Léo Messi aussi de cette pression qu'il a en permanence. Les deux se complètent bien. Messi est bien sûr beaucoup plus buteur que Neymar, mais Neymar a un rôle capital dans le fonctionnement du Barça aujourd'hui. C'est la relève, on le sait clairement, et son absence pour ce match au sommet, c'est un vrai handicap pour les Blaugrana.
Shérif, un tandem entre Messi et Suarez peut résoudre les problèmes du Barça actuellement ?
Actuellement, non, ça ne fonctionne pas. Ils sont en baisse de forme tous les deux. Après, Messi continue de garder la moyenne de buts marqués, mais Suarez est très très décevant. On l'a encore vu en Ligue des Champions. C'est une alternative. Il va falloir trouver le troisième larron.
Il y a Alcacer qui avait déjà remplacé Neymar contre la Real Sociedad il y a une semaine et il a été plutôt bon.
Il a
accéléré pas mal le jeu. Donc c'était une option intéressante. De toute façon, si Neymar ne peut pas jouer, ils n'auront pas le choix.
Il n'y en a pas d'autres.
Voilà.
En plus, Arda Turan est...
De toute façon, ce qu'il faut signaler, c'est comme disait injustice et tout et tout. Je voulais quand même, j'ai fait un post sur ma page Facebook, le Mingon officiel, pour quand même dire que, ne parlons pas, vous avez parlé de la première exclusion de Neymar, mais quand on regarde que depuis 2009, Neymar, c'est 7 cartons rouges, 132 cartons jaunes, 132 cartons jaunes.
Très jeune, mais ça a changé.
Pépé, j'ai fait la comparaison avec Pépé qui est
le
défenseur. C'est 124 cartons jaunes, c'est-à-dire 8 de moins que Neymar, et 6 cartons rouges, c'est-à-dire 1 de moins que Neymar, à une certaine période. Si dans un club comme Barcelone, on n'apprend pas.
C'est son premier depuis qu'il joue à Barcelone.
Attendez, mais chaque fois, il insulte déjà.
Mönchengladbach,
il a insulté l'arbitre, et encore dernièrement, là, on a vu comment est-ce qu'il réagit, il insulte les arbitres.
Nous, on l'a vu pleurer, à la fin du match.
Donc, à une certaine période, Alejandro Alente, quand vous crachant en l'air, vous allez recevoir ça sur la face, dit un proverbe africain. Mais si aujourd'hui Neymar handicap le Barça, c'est au Barça de dire, comme justement Suarez passe le temps à insulter les arbitres, de se comporter comme des hommes et non d'avoir des propos injurieux.
On est nombreux quand même, Rémi, à penser que les arbitres parfois punissent plus sévèrement ceux qui protestent pour les fautes qu'ils subissent plutôt que ceux qui commettent les fautes.
Mais on n'insulte pas jusqu'à la maman de l'arbitre.
Oui. N'empêche que Pep, il y a quelques cartons rouges qu'il aurait dû avoir et qu'il n'a pas eu et qui ne sont pas dans votre décompte, dans vos statistiques, Rémi Gaudin.
C'est la fin de cette première partie du Café des Sports, évidemment très chaude autour du Classico. On se retrouve juste après les infos.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Dernière mi-temps de la semaine dans Radio Foot International et une mi-temps très chaude autour eh bien, de notre café des sports de Rémi Ngono et Xavier Barré, ainsi que Chérif Guémour, Alejandro Valente et Clément Brossard. Alors nous allons délaisser les matchs du week-end pour nous lancer un peu dans le futur avec eh bien, la Ligue des Champions.
Big teams, great players, a fantastic Final Four lineup.
Real Madrid. Atletico Madrid. AS Monaco. Juventus.
On a entendu les boules, on ne sait pas si elles étaient chaudes ou pas, mais en tout cas, on a entendu tout du tirage au sort au siège de l'UEFA en Suisse ce matin. Et donc Monaco tomba sur un os ou plutôt un mur de béton, car se retrouver face à la Juventus de Turin, les Barcelonais nous le confirmeraient, c'est eh bien se retrouver au pied d'une grande muraille, non pas chinoise, mais donc italienne, une défense en béton tenue par de grands joueurs expérimentés et loués par tous. Pourtant, un homme veut et ose y croire. Il s'agit de Ludovic Gili, le petit joueur ancien de Monaco, ancien de cette finale de 2004 perdue contre Porto, qui est aujourd'hui ambassadeur de l'équipe de la Principauté.
C'est sûr que quand tu arrives en demi-finale, face au Real Madrid, l'Atletico ou la Juve, bah il faut se surpasser. Monaco est prêt à affronter n'importe qui. Monaco peut tout faire. J'ai eu cette expérience-là en 2004 et je retrouve un peu de similitude par rapport à ça, avec beaucoup plus de talent bien sûr pour l'AS Monaco d'aujourd'hui. C'est vraiment un groupe qui travaille bien ensemble, qui a envie de faire de grandes choses. Ils le demandent depuis quelques années et encore plus depuis ces derniers temps. Je vois bien un match aller 2-1 et un partout à la Juve. Il y a du talent, il y a de la folie, il y a de la fraîcheur, il y a vraiment tout. Donc c'est un peu deux extrémités qui vont se rencontrer. On va voir qui va gagner.
Un homme qui s'y connaît donc, Ludovic Gili. Mais est-ce que c'est le pire des tirages comme on l'entend depuis tout à l'heure?
Oui.
Oui. Ou est-ce que Ludovic Gili a raison d'être, de garder un certain optimisme, Clément?
Optimiste, un peu trop optimiste. Pour moi, c'est quand même le pire des tirages de cette Ligue des Champions. La Juve a encaissé deux buts seulement depuis le début de cette compétition, et ce n'est pas qu'une équipe défensive, comme on a tendance à le dire. C'est une équipe qui marque beaucoup.
Bien dit.
Paulo Dybala est quand même le joueur qui se révèle cette année. À chaque fois, on enterre la Juve en disant cette année, ça va être compliqué.
On enterre la Juve. Parce
avec le compliqué. On dit c'est compliqué. Tevez est parti. Pirlo est parti. Pogba est parti. Ça va être compliqué pour remporter le Scudetto et pour faire quelque chose sur la scène européenne. On le dit à chaque saison. Et encore une fois, cette année, ils démontrent qu'ils sont là. Donc, pour moi, c'est le pire des tirages pour l'AS Monaco.
Chérif, pour vous aussi.
Tout à fait, c'est le tirage que je redoutais. C'est pour moi. Alors là, je vais me mouiller parce qu'il faut se mouiller, hein, toujours. C'est ce qu'on attend de nous. Donc, à mon avis, on va partir sur le scénario d'il y a deux ans, c'est-à-dire peut-être 0-0, 1-0 ou 0-0, 1-1.
Ah oui, parce que vous avez raison de le rappeler. En 2015, ils éliminent ces Turinois Monaco
en quart.
Avec un seul but en deux matchs.
Ça suffit.
Oui, mais les matchs allés étaient à Turin.
Peu importe. Que ce soit à l'aller ou au retour, pour moi, c'est mission impossible. Je me mouille, mais à fond. Hein. aucune équipe française en Coupe d'Europe n'a éliminé la Juventus. Donc, ça va pas commencer malheureusement cette année. On va voir les limites de Monaco. Et c'est une équipe.
Ils en ont.
Ah oui, bien sûr. Bah non, mais on les a vus aussi. Je veux dire, c'est bien beau d'avoir des attaquants virevoltants, mais quand il y a plus d'espace, et ben ils savent plus trop quoi faire. C'est vraiment pour moi le pire des tirages. Et en plus, ce qu'il y a d'absolument crispant avec la Juve, parce que je suis pas non plus un hyper fan, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on les domine, qu'on va les éliminer, qu'on va les battre, et à l'arrivée, c'est toujours le contraire qui se passe.
Ouais.
Et surtout avec les clubs français, qui n'ont jamais réussi à sortir la Juventus.
Rémi,
c'est un classique.
Vous avez un proverbe africain là pour sauver les monégasques ou pas?
Première des choses, il faut se dire que si vous voulez le proverbe africain, on peut
moi j'aurais
dire
dit chat et chaud déclin.
Le proverbe africain dit le gorille est robuste, mais il peut succomber à la piqûre des moustiques. Donc aujourd'hui, je peux dire aussi que ce Monaco qui paraît comme des moustiques est d'ailleurs plus solide qu'on ne peut l'espérer par rapport à l'autre Juve. Quand on me parle du pire des tirages, je dis c'est un très très bon tirage. Un très bon tirage, parce que même moi je suis le championnat italien, ce n'est pas parce que la MSN ne réussit pas à marquer, tout comme ils n'ont pas réussi à marquer contre Malaga, qu'on va dire que c'est le mur en béton armé. Mais moi j'ai vu aujourd'hui la Juve de l'année dernière ne domine pas le championnat italien comme on le croit, et d'ailleurs même s'ils ont 8 points d'avance, ce n'est pas encore terminé. Maintenant j'essaie de regarder la Juve qui est là. La Juve qui est là, c'est exactement la même défense qui peut-être aujourd'hui est là, c'est-à-dire que les Chiellini, les Barzagli, avec peut-être
Bonucci, mais,
avec Bonucci,
et évidemment Buffon dans les
avec Buffon, ils ont un peu vieilli, mais ils tiennent encore un peu. Mais néanmoins, je vais regarder le Monaco qui avait été éliminé par cette Juve-là. Lorsque je regarde le dernier match de Monaco contre cette Juve avec cette défense-là, Monaco avait tiré 16 fois avec 7 corners. Et Monaco, c'est parce que justement, il manquait un tueur. Qui était avant-centre de Monaco? Eh bien, on avait Martial et on avait Carrasco. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un tueur parce que Berbatov n'entre que à 16 minutes de la fin
très
du
tard,
match. Or, aujourd'hui, le Monaco d'aujourd'hui, nous avons Mbappé, quelqu'un qui va très très vite, et nous avons Falcao qui est en très très bonne forme. Et lorsqu'on essaie de regarder au niveau des couloirs de Monaco, que ce soit Mendy, Sidibé, il y a de bons joueurs. Et quand on voit par exemple aujourd'hui Silva qui peut perforer une certaine muraille, donner un peu de la perturbation avec
mais
les mains,
il oublie une chose, Rémi Gono.
Moi j'ai
il
dit
une chose.
Ce Monaco est mieux que le Monaco qui avait terrassé Juventus en
2013.
Il oublie une chose, et Sheriff Guémour l'a évoqué, c'est que les Monégasques ont été très bons contre Manchester City parce que c'est une équipe qui fait le jeu et qui laisse des espaces.
Voilà.
Où Mbappé et les autres se sont engouffrés. Ils ont été très bons contre Dortmund parce que c'est aussi, à part les circonstances liées à l'attentat, c'est aussi une équipe qui joue et qui laisse des espaces.
Obligé de faire le jeu.
Contre la Juve, qui est une équipe qui ferme tout, qui verrouille,
qui laisse absolument pas
d'espace, qui laisse venir l'adversaire, et contre lequel le Barça, tu l'as rappelé, et c'est juste, a fait 17 frappes au but sans arriver à encadrer, s'ils en ont cadré une seule et sans arriver à marquer, parce qu'il n'y a absolument pas d'espace. Je suis très curieux de voir comment Mbappé, avec son grand talent, va réussir à passer. Et en plus, il n'a pas l'expérience face à des briscards comme Bonucci, Chiellini, Buffon, qui eux ont tout fait à tout le monde. Ils savent tomber, ils savent truquer, ils ont toutes les astuces du métier. Ça va être très très compliqué pour Monaco. Je souhaite très franchement
que Monaco passe. Moi aussi,
parce que j'adore leur jeu. Voilà. Mais face à la Juventus, qui contrairement à ce que tu dis, ils sont pas champions, mais s'ils le seront une fois de plus, parce qu'ils ont éliminé Naples, ils les ont badanés en coupe, ils les ont battus en championnat, eh bien cette équipe de la Juventus, elle est très très forte.
Alejandro, la jeunesse, l'insouciance face à l'expérience italienne.
Oui, la jeunesse, mais aussi la fatigue après une saison très longue.
On les promettait fatigués cette semaine, on les a pas vus fatigués.
Ils ont eu quand même la réussite de marquer très vite, aussi bien à l'aller qu'au retour, c'est qui leur a permis de gérer leur temps faible physique de façon plus efficace.
Mais ça peut être une tactique.
Oui, mais c'est pas, ça marche pas à tous les coups, ce genre de choses.
Et ils prennent des buts en Monaco, mine de rien.
Ils sont fatigués, ils ont un programme très chargé, ils doivent défendre leur première place en Ligue 1, ils doivent jouer les demi-finales de la Coupe de France, alors que la Juventus est dans une dynamique beaucoup plus calme, avec beaucoup moins de matchs devant eux, et avec la possibilité de faire tourner l'effectif plus facilement, parce que Monaco, en plus, n'a presque pas de banc.
Allez, et donnez votre pronostic, quoi. Je me suis mouillé, mouillez-vous.
Moi, je pense que la Juve va gagner, comme d'habitude, sans
1-0, faire 1-0.
Voilà, c'est ça, 0-0, 1-1.
Allez, Rémi, allez, j'ai le cœur de ceux qui sont pour Monaco.
2-1 pour Monaco.
Il y a deux matchs.
Il y a deux matchs.
Sur les deux matchs.
Sur les deux matchs, Monaco gagne par 3-2.
3-2. Clément, alors mouillez-vous aussi.
2-0 pour la Juve au Juventus Stadium et un match nul à Monaco.
Non. 2-0-0 ou d'autres choses.
Un partout avec des buts.
Bon.
Vous remarquez que Rémi Gono imagine que Monaco va marquer plus de buts en deux matchs que la Juventus en a encaissé jusqu'à présent en une
campagne. Attends. Vous connaissez la moyenne de nombre de buts qui marquent par match Monaco.
Oui,
hein.
Mais
ils tiennent face à City.
Et même quand ils ont marqué contre
Mais je souhaite qu'ils réussissent.
Il faut se dire.
Je souhaite que ton pronostic soit le bon.
Il faut se dire que quand Monaco avait marqué contre la Juve, on ne voyait pas Monaco marquer, mais parce que Monaco sortait de 4 matchs de Ligue des Champions avec seulement 3 buts marqués. Or là, Monaco sort quand même de 4 matchs de Ligue des Champions avec 12 buts marqués.
Oui, non, mais en ce moment, c'est une machine à but, on le sait. Alors peut-être que ça marchera aussi. Autre match, l'autre demi-finale opposera, le Real Madrid et l'Atlético. Ils n'arrêtent pas de se rencontrer, parfois en finale, parfois avant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match, Sheriff, Alejandro, Sheriff?
C'est dur. Enfin, si on se réfère au
dernier. Ça sera au Bernabéu en premier.
Si on se réfère au dernier match, moi, il me semble que là, il y a une vraie dynamique. Là, on touche vraiment au cœur même du Real Madrid. C'est la mystique autour de la Ligue des Champions. Dès qu'ils entendent la musique, ils se métamorphosent. Non, mais c'est complètement fou. Là, tout le temps passe. Pendant longtemps, le Real Madrid est resté coincé à 9. Ils n'arrivaient pas à passer à la décima, la 11e. Une fois qu'ils ont passé la décima, ils ont retrouvé les crocs du Real Madrid des origines. La Ligue des Champions, c'est irrationnel. C'est leur truc. Il y a une mystique autour. Donc, pour moi, mon favori, c'est le Real.
Ensuite, et ça serait la première fois qu'une équipe conserverait cette coupe, en plus.
Je pense qu'il y a un complexe psychologique du côté de l'Atlético. Ils se sont fait surprendre deux fois, donc, à mon avis.
En
finale de Ligue des Champions. Mm-hmm. Donc, petit avantage Real Madrid. Mais, sur le dernier match qu'on a vu, l'Atlético n'a pas dit son dernier mot. Mais petit avantage pour le Real Madrid.
Moi, je pense que c'était les pires tirages pour le Real Madrid. Je pense qu'ils auraient préféré n'importe quoi plutôt que l'Atlético.
Juve?
Absolument. Parce que à chaque fois qu'ils jouent l'Atlético, c'est très très serré. C'est la cinquième fois et les résultats sont trompeurs. C'est vrai que le Real a fini à chaque fois par passer, mais la dernière fois c'était au tir au but. La finale précédente en 2014, c'était au bout de prolongation.
Dans les quarts de finale,
ça avait été un but la fin du match de Tite Hernandez. Et en 59, l'Atlético en 1959, l'Atlético aurait dû passer si on avait appliqué la règle du but marqué à l'extérieur. Mais à l'époque, on ne le faisait pas. Il y avait eu un match d'appoint et le Real
c'est
avait
compliqué,
gagné.
C'est dans la
donc,
douleur.
C'est que vous-même vous venez de dire que depuis 59, l'Atlético ne parvient donc pas à passer. Comment est-ce que ça peut être la pire des choses? Et je peux d'ailleurs vous ajouter autre chose, c'est que le Real de maintenant est mieux que le Real, par exemple, des autres saisons, parce que chaque fois, comme la dernière Ligue des Champions, pour affronter l'Atlético, eh bien, Bale était blessé, Benzema sortait de blessure, Cristiano Ronaldo avait déjà déclaré forfait contre Manchester City, donc il a joué avec un demi-pied. Cette fois-ci, ce Real-là, c'est un Cristiano Ronaldo qui revient très très fort, un Benzema qui est très bon en point, et d'ailleurs, le dernier match, Modric, lui également était blessé à la Ligue des Champions. Donc, aujourd'hui, je trouve que c'est un Real beaucoup plus fort que le Real qui a flanqué les autres Atlético.
Bon, je crois qu'on a à peu près tout dit sur cette confrontation. Et on y reviendra bien sûr, puisque rendez-vous le 2 et 3 mai pour ces deux matchs. Et celui-là, ça sera justement le mardi 2 mai. On avait un autre tirage au sort. Et là, c'est en Ligue Europa, avec encore un club français, en tout cas du championnat de France. Et il s'agit de Lyon, qui sera donc face à l'Ajax. Alors évidemment, au seul nom Ajax, reviennent plein de souvenirs, mais des souvenirs anciens, mais des souvenirs contemporains d'un certain joueur qui a fait un commentaire tout à l'heure au micro de nos confrères d'une chaîne de télé, c'est Bernard Lacombe.
Ma génération, c'était l'Ajax. Ils ont joué pendant des années, ils ont gagné quand même 3 ou 4 Coupes d'Europe. C'était l'équipe de nos rêves avec les Cruyff, Kaiser, Niskens, tout ça. Et je sais que ça sera très très compliqué parce que c'est un adversaire redoutable. Et c'est un club qui est un petit peu à l'image de notre club, ou nous, vice-versa, parce qu'ils font beaucoup de formations. Ils sortent beaucoup, beaucoup de jeunes. Et c'est à nous maintenant d'essayer d'être au niveau ce jour-là, comme on l'a été à Rome, comme nous l'avons été à Beşiktaş.
Alors, toutes ces équipes, en plus, ont eu bien du mal à se qualifier hier, parce qu'on a eu pas mal de prolongations.
Et notamment, 3 sur 4 matchs.
Et notamment du côté de Lyon. Mais que dites-vous de cette affiche? Alors, face à cet Ajax, vous parlez-nous de l'Ajax de maintenant, Sheriff, parce qu'ils sont 10e au classement du championnat.
C'est une équipe qui change continuellement. Donc l'un des derniers escapés qui est encore international, c'est David Klaassen, le milieu de terrain. Le reste, ça a complètement changé. C'est de plus en plus jeune. Et cette équipe d'Ajax, ça symbolise un peu ce que je pense du football néerlandais d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'est considérablement affaibli, mais il reste toujours la capacité qu'ils ont de sortir des joueurs intéressants. Et il y a cette façon
guerrière.
Ouais, puis il y a cette façon de jouer, le style qui ne change pas. Moi, j'ai vu le match aller, c'est incroyable. Par contre, j'aurais pu gagner 4-0 hein, au match aller contre Schalke. Ouais. Et ça continue de jouer. On les a vus jouer au parc. C'était une équipe
ils
de
gamins. Ils sont qualifiés en Allemagne hier en plus.
Ils sont qualifiés en Allemagne, oui, parce qu'il y a encore des ressources. Hein.
Ouais. Parce que hier, il y a quand même une prolongation. Ils sont à 10. Et ils sont à 10, ils sont menés. Ils sont menés 3-0. Oui, mais c'est pas la Juve ou, enfin, c'était Schalke. Et Schalke, c'est une équipe qui a fait preuve d'une naïveté confondante dans cette fin de match. Ils ont pris 2 buts et ils se sont fait éliminer sur leur pelouse devant leur public, alors qu'ils avaient la qualification au bout. Donc, mais il y a quand même une très belle réaction de l'Ajax. Il a continué effectivement à jouer ce jeu. Ils ont un Danois devant, la Dolberg, qui est très bon. Ils ont toujours cette âme, cette volonté de gagner. Et je trouve que c'est bien qu'ils aillent loin dans cette compétition, parce que du coup, même si évidemment on souhaite que Lyon passe, mais du coup ça va peut-être faire rester ces jeunes un peu plus longtemps, parce que le problème du football néerlandais, c'est que souvent ils partent très jeunes, parce qu'ils sont bons, ils vont dans les clubs anglais, ils se retrouvent à être remplaçants, et finalement ils perdent leur, par contre
c'est une super affiche.
Voilà. Alors Clément, les chances de Lyon face à cet Ajax que nous décrivent nos camarades,
elles sont élevées pour moi de passer en finale de cette Ligue Europa. Hier, Lyon a démontré qu'ils avaient une capacité assez importante dans l'adversité, parce que dans un climat qui leur était complètement hostile, ils ont réussi à sortir un grand match. Ils étaient mis en difficulté et puis ils ont su réagir. Alors moi, j'étais pas du tout serein par rapport au sang chaud qu'ont Ghezal ou Tolisso. Ils l'ont bien maîtrisé et cette victoire au penalty leur a, comme le Real, apporté un capital de confiance assez important dans la suite de la compétition. Lyon-Ajax, ça ressemble à une affiche de Ligue des Champions d'il y a quelques années. Ce sera en Ligue Europa et avec une Ajax qu'on connaît pas vraiment, donc je pense qu'il y aura du travail à la vidéo pour regarder les certains matchs de l'Ajax.
En tout cas, hier soir, il y avait quelqu'un qui n'était pas sur la pelouse, c'était Memphis Depay, puisqu'il a été acheté au Mercato et qu'il ne peut pas jouer. Mais écoutons, parce que lui regardait ça dans un bar. Voilà. Il fallait sauter de joie devant l'écran de télé puisqu'on pouvait pas être sur la pelouse. Ça a dû être le cas d'ailleurs dans beaucoup de bars lyonnais.
De bouchons.
Ce qui était amusant, de bouchons aussi, oui, bien sûr. Ça, c'est plutôt le restaurant. On a vu aussi des images de Juninho qui était là-bas au Brésil devant sa télé avec ses filles qui ont dû naître à Lyon d'ailleurs, et quand qui a sauté de joie. Alors là, il était seul devant sa grande télé lorsque le penalty a été marqué.
Oui, ici, c'était difficile de sauter de joie avec les nouvelles qui nous arrivaient des Champs-Élysées, mais quand même. Moi, j'ai été personnellement bluffé par la qualité de la séance des tirs au but des Lyonnais qui avaient la difficulté de tirer après les Turcs, donc qui avaient une grosse pression à chaque fois. Et c'était vraiment, à l'exception de Jallet qui a complètement manqué sa frappe, ça a été des tirs remarquables.
Mais des deux côtés, à part quand les joueurs de Besiktas ont échoué. Sinon, c'est un pénalty fantastique.
Moi, je trouve que ce Lyon a trouvé beaucoup de maturité. C'est vrai déjà que en s'imposant contre la Roma, où il y avait quand même des gens comme les Salah, N'Golan et peut-être Zeko, avec une telle facilité, avec une telle aisance, je vois que c'est Lyon.
Mais
cette fois-ci encore, ils ont ajouté beaucoup plus d'expérience. Parce que quand vous regardez un Koulou revenir à la charnière qui manquait d'expérience, c'est-à-dire que...
C'est d'ailleurs un miracle qu'il soit revenu là tout d'un coup.
Et il a totalement maîtrisé les choses. Et vous voyez aussi que il a maîtrisé les choses. De toutes les façons, j'ai regardé toutes les notes qui ont été données par des confrères, il était au-delà des 7.
Il y a 3 dans l'équipe.
Maintenant, lorsque j'essaie de regarder aussi ce qui se passe par devant, c'est-à-dire que ce soit au milieu du terrain, je vois quand même au milieu du terrain, nous nous retrouvons avec un milieu de terrain où on a à la fois la jeunesse avec les Tolisso, avec Cécile et Ghezal qui reviennent là avec Fekir. Moi, je me dis, c'est Lyon qui part déjà avec un avantage psychologique, parce qu'ils ont quand même déjà gagné en club néerlandais, c'est-à-dire que AS Alkmaar, par 11 buts à 2 sur l'ensemble des deux matchs.
Tu vas voir, ça va être autre chose.
Je dis, c'est possible, mais bon, comme le dit un proverbe africain, on ne fait pas un bébé tant qu'il n'est pas encore né.
Attention, l'Ajax rend fou hein, quand ils se mettent à jouer. Demande au PSG comment ils avaient galéré au parc, à l'aller, au retour, à Amsterdam et au parc. Quand ça se met à jouer, Rémi, ça rend fou.
Un petit mot sur l'autre demi-finale qui mettra face à face le Celta Vigo, alors lui, il est bien 10e de son championnat, et Manchester United de la Première Ligue, entraîné par José Mourinho.
Et sans Zlatan. Zlatan Ibrahimovic probablement.
Alors lui justement, José Mourinho qui a mis la victoire dans cette coupe comme un but de la saison, puisque ça sera compliqué peut-être de se qualifier pour une coupe européenne, et c'est aussi la même ambition du côté de Lyon. Mais vous donc l'avez déjà dit Xavier, il y a la blessure de Zlatan qui s'est fait mal. C'est pas le seul d'ailleurs, il y a Rojo aussi, on n'a pas trop de nouvelles. José Mourinho, on n'a pas le temps de l'entendre, mais il dit qu'il est très pessimiste alors qu'il aimerait, il essaye d'être optimiste.
Ouais. Il peut l'être pessimiste.
Non, mais ils ont fait quoi combien ils ont fait Manchester United sans Zlatan contre Chelsea ce week-end?
Oui, ils ont gagné 2-0, bien sûr. Bien sûr.
Mais hier, ils sont ramés pour venir au bout de cette équipe.
Mais pas que hier, ils ont eu du mal à se défaire des Russes de Rostov déjà.
Chez eux, contre Anderlecht, hier soir.
Ils ont gagné 15-0. Anderlecht, qui avait joué d'ailleurs, qui était dans le groupe de Saint-Etienne, que Saint-Etienne avait battu à Saint-Etienne et match nul en Belgique.
Ouais. Donc, Manchester United, ça sera compliqué contre Celta Vigo ou pas, Alejandro?
Le Celta Vigo, c'est une équipe qui peut donner du fil à retordre. On l'a vu, il a éliminé le Real Madrid en Coupe d'Espagne. Donc, même si on peut faire la moue devant sa 10e place au classement espagnol, c'est une équipe qui, en Coupe, peut faire des vraies performances. Ils ont été demi-finalistes en Coupe d'Espagne. Donc, c'est une équipe qui, sur deux matchs, peut réussir quelque chose.
Surtout, on a quand même vu quelque chose de terrible, c'est-à-dire l'inefficacité à outrance de Manchester United, qui a manqué des occasions incroyables. Donc déjà que Zlatan n'est pas là, et même quand il était là, lui-même il a manqué des face-à-face. Donc aujourd'hui, Manchester, comme José Mourinho disait déjà, manque un tueur de surface. Ça c'est très très sérieux. Et là, aussi on a vu que, bon, au niveau de la défense, certes Blin est revenu, mais Rowe était mieux.
C'est Rashford qui l'est sauvé hier en fait.
Ça sera Rashford.
Rashford l'avenir dans cette équipe.
Mais sauf que Rashford manque quand même trois face à face. C'est incroyable.
Le manque d'efficacité, ouais.
C'est quand même lui qui marque le but de la qualification. Et puis Zlatan en a renté lui aussi beaucoup cette saison. C'est pas le seul. Manchester United est le club en première ligue qui a touché le plus de poteaux et de transversales. 18, je crois. Plus que Manchester City.
Félicitations pour José Mourinho. 10e demi-finale européenne.
Et attention à Giudetti aussi, l'attaquant du Celta Vigo, qui est capable de tout sur une rencontre. Le Suédois.
Eh bien, nous serons attentifs. Là, les matchs auront lieu le 4 mai prochain.
Carton jaune.
Il y a un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Rien à dire.
Messieurs, à vos cartons, honneur à l'invité du jour, Clément Brossard.
Alors Annie, vous m'avez piqué mon carton pour Memphis Depay. J'aurais pu mettre un carton vert, le fait qu'il ait suivi cette rencontre dans un bar. On aurait pu mettre un rouge aux supporters du Beşiktaş et aux Lyonnais à l'aller. Autant je préfère mettre un carton vert aux supporters du Beşiktaş hier, parce que l'ambiance était énorme au Vodafone Arena. 44 000 Turcs, aucun débordement, donc c'est à souligner quand ça se passe bien.
Bon, ben voilà pour nos amis turcs d'un quartier d'Istanbul. Xavier.
Puisque vous parlez des supporters, moi je vais mettre en revanche un carton rouge aux supporters de Bastia, qui se sont tristement illustrés le week-end dernier à l'occasion du match contre Lyon. Je ne mets pas au club parce que je pense que le club, ils essayent de gérer, alors pas toujours très bien, mais ils essayent de faire ce qu'ils peuvent.
Même pas tous les supporters, il y a un groupe.
Voilà, un groupe en particulier, cette fameux groupe 1905, parce qu'ils ne se rendent pas compte de la bêtise qu'ils font. Déjà, leur club est en difficulté d'un point de vue sportif, mais en plus, avoir du football de haut niveau à Bastia, c'est pas évident, c'est même presque une anormalité d'un point de vue économique. C'est une toute petite ville. Ouais. Voilà, quand on voit à l'échelle de l'Europe le développement du football, ils ont une chance incroyable, ils s'en rendent pas compte et ils gâchent cette chance en allant sur le terrain menacer les joueurs d'un grand club qui réussit à aller en demi-finale.
Tu peux le dire.
C'est vraiment débile. Alors, carton rouge.
Oui, ils ont été punis d'ailleurs pour l'instant. Première punition, c'est un match à huis clos et sur un terrain neutre, hein, Alejandro. Shérif.
Je vais aller vite. Comme on parle pas souvent du football néerlandais, il est un peu à l'honneur.
On vient d'en parler.
Mais je vais prolonger donc un carton vert à Arjen Robben pour le super match qu'il a fait. Autant à l'aller, il m'avait énervé parce qu'il avait toujours tenté les solutions individuelles en solo.
Du Bayern Munich éliminé.
Quand même. Et 34 ans, il a encore des jambes. À lui tout seul, il s'est encore pesé sur une attaque. Bon, ça n'a pas suffi, mais ça fait plaisir. Bon, il y a eu vraiment un duel extraordinaire, mais on a une chance extraordinaire entre le Marcelo et Arjen Robben. Donc voilà, il fallait que j'en distingue un, et bon, ça sera.
Et pas à Babel, qui a raté une occasion énorme hier, par contre.
Rémi.
Alors, deux fans assidu de Ni Gasnier, Aïssat Ousmane Diallo, Mariam Flore qui Diallo qui me transmet et qui transmet
qui les, donne un carton à moi
et qui donne d'abord un carton vert à Ni Gasnier sur ma page Facebook et qui aussi l'adresse à Cristiano Ronaldo qui marque quand même au meilleur gardien du monde 5 buts en 2 matchs alors qu'on dit qu'il est vieux et pendant ce temps les jeunes de la MSN en 180 minutes ne marquent pas le moindre but même hors jeu à Buffon non vieux Buffon. Finalement, comme le dit un proverbe africain, mieux vaut un vieux lion qu'un troupeau de chatons.
Alejandro, vous aimez les petits chats ?
On a beaucoup parlé d'arbitrage aujourd'hui et des deux fameux buts hors-jeu de Cristiano qu'on venait d'évoquer. Donc je me félicite et je donne un carton vert à la Ligue pour sa décision de faire appel à l'arbitrage vidéo la lors des matchs des barrages, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, sur certaines phases de jeu, et notamment sur les hors-jeu, il est inadmissible qu'on puisse pas s'appuyer sur des images qui, en quelques secondes, peuvent éviter des commettre des erreurs graves.
Pas à tous les coups, Alejandro.
Donc, dans la plupart des cas, en tout cas.
On va faire le débat sur la vidéo.
Et donc, je pense que l'UEFA devrait s'inspirer de ce que va faire la Ligue et aller
vivement que l'UEFA vienne disqualifier le Barcelone, qui s'est qualifié devant le Paris Saint-Germain à cause des erreurs d'arbitrage.
Un carton vert de Radio Foot International au club Esport de Recife. C'est l'équipe qui vient d'être désignée championne du Brésil pour l'année 1987. Et oui, 30 ans de bataille judiciaire avec Flamengo, l'équipe de Rio de Janeiro. Cette année-là, il y avait eu deux championnats parallèles, je vous passe les détails. Et finalement, la Confédération brésilienne en 2011, ne sachant que faire, avait dit « bon, il y aura eu cette année-là deux champions ». Eh bien non, la Cour suprême a donc décidé que c'était Recife qui serait champion du Brésil 1987. Il y a eu la fête à Recife, parce que c'est la première fois que ce club gagne
une étoile en plus sur le maillot.
Eh bien, ils jouent en plus en rouge et noir, exactement comme Flamengo. C'est assez marrant. À l'époque, et en 87, à Flamengo jouaient Zico, Bebeto et Renato.
Une étoile en moins sur le maillot de Flamengo.
C'est la fin de ce Café des Sports. C'est la fin de la semaine. Bon week-end à tous. Merci à Louis Laforgue et merci à Julien Ling qui était à la réalisation. N'oubliez pas Lyon-Monaco dimanche soir et on se retrouve lundi.
Bonjour, c'est